Et là, tout de suite, Jean Chrysostome a beaucoup de succès. Il a une façon de prêcher qui était assez inusitée, semble-t-il. Oui.
Justement, on va tout de suite entendre l'évêque Mélès, ou bien peut-être l'évêque Flavien, donc parler de Chrysostome et l'encourager peut-être avant son premier sermon.
Bonjour.
Ah, Jean, on n'attendait plus que toi. Alors, avec le team, on a étudié bien les circuits. Pour la stratégie, c'est mieux que tu privilégies les appuis aérodynamiques que la performance, non?
Bon, mais oui, la stratégie, moi, c'est facile, hein? À fond, à fond, à fond.
Si, c'est bien, c'est fougueux. Mais c'est mieux si tu arrives à la fin de la course, hein? Comment tu sens les circuits?
À fond, à fond, à fond.
C'est-à-dire, c'est un circuit que c'est difficile pour doubler, que tu dois réfléchir. Ce que je veux dire, c'est si tu es derrière un pilote qui va moins vite que toi...
Je le double à fond.
Si, ouais. Mais peut-être il n'y a pas la place.
S'il n'y a pas la place, je coupe par le gravier.
Si, mais c'est pas une stratégie, ça.
Ah si, c'est la mienne.
Alors, on me signale à l'instant que je me suis trompée de jingle. Bon, non, ce n'était en tout cas pas, vous l'aurez reconnu, Jean, aux courses de chars. On vous expliquera d'ailleurs dans quelques minutes pourquoi c'était impossible. Ni Jean sur les starting blocks avant sa première homélie. Quoique, vous avez parlé donc de sa popularité en tant que prédicateur, qui était donc toujours à fond, à fond, à fond dans ses homélies.
Alors, oui, là, c'est pas Jean, allez-y, mais le fait est qu'il avait une particularité, c'est qu'il improvisait. Ça frappait beaucoup son auditoire. Il était très proche d'eux, il se mettait vraiment proche d'eux, il devait forcément parler très très fort hein, parce qu'il n'y avait pas de micro. Et il avait un style très familier voilà, par rapport à quelqu'un comme Démosthène qui avait une certaine force d'éloquence, ça c'est certain, mais qui avait plus d'ampleur. Jean Chrysostome n'hésite pas à avoir un langage familier, pas grossier, mais voilà,
comme Jean,
des tournures. Des tournures très direct, il fait intervenir ses interlocuteurs comme s'il était dans un dialogue. Et voilà, il a eu son originalité et son succès en tant que prédicateur, ça c'est certain.
Oui, il a même eu tellement de succès qu'il était parfois applaudi pendant ses sermons.
Il devait s'arrêter et empêcher les gens de l'interrompre. Mais il faut voir qu'à l'époque, la parole des orateurs, c'était un peu la télé de l'époque. C'était le modèle de la culture, le principal médium. C'est une culture de l'éloquence, c'est pas une culture de l'image, peut-être un petit peu, mais d'abord une culture de l'éloquence, de la parole en direct. Et même les païens, les juifs venaient dans l'église pour l'écouter. Et Jean Chrysostome d'ailleurs se plaint que ses propres ouailles viennent pour ses sermons et s'en aillent juste après. Il dit, voilà, ça sert à rien. Finalement, mon sermon sert strictement à rien. Vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit. Vous n'avez pas fait attention. Vous venez juste pour m'entendre et pas du tout pour en tirer profit.
Oui, parce qu'il était l'héritier aussi donc, de cette école de rhétorique où il était et plus largement de la rhétorique grecque classique hein, qu'il emploie beaucoup aussi dans ses homélies. On parlait donc des courses, alors non pas des courses de voitures, mais des courses de chars aussi. Donc on va maintenant quitter un peu la vie de Chrysostome pour s'arrêter sur quelques grandes thématiques qu'il a abordées dans ses homélies, notamment à l'époque où il était prêtre d'Antioche. Et donc ce problème des courses de chars et aussi du théâtre préoccupait vraiment Jean Chrysostome. Il en a fait beaucoup mention dans ses homélies. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ?
Alors oui, alors déjà le théâtre, c'était pas du Beckett, hein, c'était pas du Racine non plus. C'était souvent des spectacles obscènes avec de la danse et les courses de chars également étaient l'occasion de beaucoup de débordements. La ville elle-même avait l'habitude de voir des processions païennes avec des phallus dressés. Il y avait des processions juives qui avaient beaucoup de succès, mais ça c'est encore un autre sujet.
Voilà.
voilà, il faut voir que l'opposition de Chrysostome était en réalité contre une forme de culture qui allait contre ce qui pour lui était la décence et faisait concurrence en fait directement au spectacle entre guillemets qu'était la liturgie dans l'église.
Oui, qui vous l'avez dit attirait aussi les foules finalement
voilà,
comme
en fait,
un spectacle.
Il y avait un concours, une sorte de concours culturel entre les communautés. Et bon, là, ça se passe à Constantinople, mais il y avait des hérétiques qui avaient beaucoup de succès à Constantinople. Et il a réussi à les faire interdire. Et c'est ses propres processions qui ont remplacé celles de Sicinios.
Alors, ce que vous dites là, ça parle aussi bien du rapport donc, de Jean Chrysostome avec les autres communautés, notamment avec les païens et avec les juifs. Alors, ce qu'on tait souvent, ce qu'on n'aime pas trop dire, c'est que Jean Chrysostome a donc été assez virulent envers les païens, mais aussi envers les juifs. Qu'est-ce qu'on peut en dire sans langue de bois, j'allais dire ?
Alors, voilà, déjà, la position de Jean Chrysostome vis-à-vis des Juifs est assez contrastée. C'est-à-dire qu'il a les paroles les plus dures qui soient et qui ont sans doute nourri l'antisémitisme moderne. On ne peut pas, sans anachronisme, parler d'antisémitisme de Jean Chrysostome. Il y a un anti-judaïsme très net, hein, dont il ne s'agit pas de l'excuser. Mais voilà, il se trouve qu'il y avait une concurrence réelle des Juifs à Antioche vis-à-vis des chrétiens. Donc Jean Chrysostome a essayé de séparer ces ouailles qui étaient tentées d'aller à la synagogue et qui y allaient de fait. Il y a cette position anti-juive très nette chez lui. Et puis, le fait qu'il avait beaucoup d'amis juifs à Constantinople. Enfin, voilà, il a eu des mots durs avec tout le monde, en réalité, hein, pas seulement avec les juifs. Et, bien sûr, aussi avec les païens. Et il a eu une œuvre dans ses écrits. Voilà, il y a beaucoup d'écrits contre les juifs, des écrits contre les païens. Et il a lui-même, étant nourri de culture païenne, était assez disposé à répondre et à savoir démasquer les erreurs du paganisme. Alors, par exemple, il y a une figure qui était familière aux païens, c'est celle du philosophe cynique Diogène, donc qui était un provocateur né, donc comme cynique, mais qui faisait déjà partie de la culture commune de tous les Grecs. Et voilà comment Jean Chrysostome, par exemple, s'en prend à cette figure. Diogène, le philosophe, écrit-il, fit preuve d'un grand franc-parler à l'égard d'un roi. Voyons donc ce grand franc-parler si par hasard il ne serait pas plus vain encore que le fait peu banal qu'il vivait dans un tonneau.
Et donc ça parle à ses auditeurs. Là,
voilà, l'image de Diogène dans son tonneau encore aujourd'hui, je pense, est assez familière. Quel fut donc ce grand franc-parler ? Un jour qu'Alexandre le Grand, en route contre le roi de Perse, s'était arrêté près de lui en l'invitant à déclarer s'il désirait quelque chose, « Rien, répondit-il, si ce n'est que le prince ne lui fasse pas d'ombre !» Car le philosophe était alors en train de se chauffer au soleil. « Ne rentrerez-vous pas sous terre ?» commande Jean Chrysostome. « Ne vous cacherez-vous pas de honte ? N'irez-vous pas vous terrer quelque part pour vous enorgueillir de ce dont il faudrait rougir ? Combien il aurait mieux valu, revêtu d'un manteau épais, celui des philosophes, être au travail et demander alors au prince quelque chose d'utile plutôt qu'être assis en guenille à se chauffer à l'exemple des petits-enfants à la mamelle que les nourrices, après les avoir baignés et frottés d'huile, exposent ainsi pour la même raison qu'invoquait alors le philosophe, assis quand il demandait cette faveur digne d'une pauvre vieille femme.
Mais le franc-parler, n'est-ce pas, est admirable.
Oui, c'est un interlocuteur que fait parler Jean Chrysostome, mais il répond « Mais il n'est rien de plus extravagant que le sien. L'homme de bien doit tout faire en vue de l'intérêt commun et réformer la vie des autres. Or, en réclamant qu'on ne lui fasse pas d'ombre, quelle cité, quelle maison, quel homme, quelle femme a-t-il sauvé ? Dis-moi les fruits de son franc-parler. » Alors voilà, c'est un petit peu facile de sa part de s'en prendre à Diogène, qui vivait pour la provocation, et visiblement, sa provocation a marché aussi avec Jean Chrysostome.
Alors comme ça, Jean Chrysostome s'empare de quelques figures, notamment du paganisme, pour les réutiliser dans ses homélies. Mais il s'inspire aussi, bien sûr, de grandes figures du christianisme, à commencer par la figure de Paul, de Saint Paul, qui l'a énormément inspiré et à laquelle il s'identifiait probablement aussi avec sa propre trajectoire de vie, hein, dont on va encore parler dans la suite de l'émission. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce rapport donc, entre Chrysostome et Paul et sur la manière dont il utilise cette figure de Paul dans ses prédications ?
Oui, Paul est effectivement le grand modèle de Jean Chrysostome pour sa spiritualité. Et le fait est que ce n'est pas tellement l'imitation de Jésus-Christ ou encore moins l'imitation de Marie qu'il lui propose dans son œuvre, c'est vraiment l'imitation de Saint Paul. Il a commenté l'intégralité des écrits attribué à Paul.
Oui, ce qui est énorme. Hein,
ce qui est énorme et ce qui a servi de modèle aussi, de commentaire pour les lettres de Paul pour les siècles. Hein. Et il a, par exemple, il commente ainsi le passage où saint Paul écrit « Si l'un de vous semble être sage, qu'il devienne fou. » Et Jean Chrysostome le rapproche par exemple de ce que dit Jésus dans saint Matthieu, « Père, je te bénis parce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents ». En disant sage, il ne parle pas de la véritable et louable sagesse, mais de celle qu'il croyait posséder par leur pédanterie. Donc là, il se détache très nettement de la culture païenne. C'est pourquoi il n'a pas dit « tu l'as révélé aux fous », mais aux petits, aux gens sans feinte, aux simples, veut-il dire. Il montre que non seulement il n'était pas injuste que cela soit privé de ses révélations, mais que c'était tout à fait normal. Et en tout, il nous enseigne à nous débarrasser de la folie des grandeurs et à rechercher la simplicité. Et là se fait le rapprochement avec Paul. Paul le dit avec davantage de force. On voit bien le lien avec Jésus. Voilà, il y a l'évangile qui est irremplaçable et il y a la force supplémentaire apportée par Paul. Paul le dit avec davantage de force quand il écrit « Si l'un de vous semble être sage en ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir sage. » C'est ainsi, commente Jean Chrysostome, que se révèle la grâce de Dieu.
Oui, on voit aussi un autre trait marquant de la prédication de Chrysostome, c'est cet art du paradoxe qu'il hérite finalement de Paul lui-même et qu'il manie dans ses homélies assez largement.
Alors, oui, effectivement, les paradoxes sont nombreux chez Jean Chrysostome. Donc ce moine qui parle à des laïcs. Il y a aussi cet homme féru de culture païenne qui critique la culture païenne. Et il y a aussi ce saint qui loue la sainteté, la virginité de Marie, mais qui, comme d'autres avant lui, s'en prend à, disons, au sentiment de mère un peu trop possessive qu'elle manifeste quand elle lui demande à lui parler alors qu'il est déjà en train de parler en public. Paradoxe aussi de quelqu'un qui est capable de dire que c'est pas la peine d'aller à la messe. Alors, dit comme ça, c'est évidemment faux, hein, puisque c'est alors, il faut le dire, hein, c'est celui qui a donné son nom à la liturgie la plus connue en Orient, la divine liturgie de Jean Chrysostome. Et donc, c'est un liturge de génie hein, qui a eu un sens extraordinaire dans la liturgie. Et de fait, il a eu un rôle majeur à Constantinople et pour la liturgie byzantine en général. Il dit par exemple... Croyez-vous que la vie de foi consiste à aller toujours à la messe? Ce n'est rien si nous n'en recueillons pas de fruits. Si nous n'en rapportons rien, il vaut mieux rester chez nous.
Alors voilà, donc, ça mérite d'être clair, oui. Et assez radical.
Voilà, quels fruits recueillez-vous des messes? Même si vous y trouvez quelque utilité, cela fait longtemps que vous devriez tous vivre à la vie de la sagesse. Tant de prophètes vous parlent deux fois par semaine, tant d'apôtres, tant d'évangélistes, tous vous exposent les vérités du salut et vous présentent avec beaucoup de précision ce qui pourrait régler votre comportement. Mais vous n'en profitez pas.
Oui, ça rejoint aussi exactement la quatrième de couverture, quand vous disiez que Chrysostome était aussi un écrivain pour ceux qui ne veulent pas rester endormis. Hein, c'était aussi une manière de réveiller son auditoire et de lui mettre le nez sur l'essentiel, donc sur la vie de foi aussi, avec un aspect très, très pragmatique. On l'a vu aussi avant dans l'extrait avec Diogène. Et du coup, donc, dans cet aspect pragmatique, qui vivait vraiment... comme vous l'avez dit aussi par rapport à son expérience de diacre et qui se ressent aussi après dans ses prédications. Il mettait notamment l'accent sur la place des pauvres à Antioche et sur le fait que donc, la foi ne se vit pas justement que dans les églises, mais aussi en actes. Il insiste beaucoup là-dessus, hein, sur la foi qui se manifeste par les actes et notamment donc, en donnant, en faisant l'aumône, hein, en donnant aux pauvres. Et est-ce que vous pouvez un peu développer cette thématique-là?
Voilà, alors en grec, on trouve ça chez Jean Chrysostome et chez beaucoup d'autres auteurs chrétiens. Il y a ce jeu de mots sur le mot « éléos » qui désigne la miséricorde de Dieu, et le fait de soi-même faire miséricorde, c'est-à-dire donner quelque chose. Et le même mot, « éléon », désigne l'huile ou l'olivier. Voilà, le produit de l'olivier. Et pour Jean Chrysostome, il y a un lien direct entre la miséricorde de Dieu et l'aumône qu'on fait dans la vie de tous les jours. Et il n'y a pas de liturgie possible s'il n'y a pas de vie chrétienne plus largement dans le monde. Et l'Église n'a de sens que si elle cherche le salut du monde. Voilà. La liturgie, tout seul dans son coin, ça ne sert à rien, à mon avis, pour Jean Chrysostome, mais ça, c'est vraiment très net. Alors, je donnerai un exemple. Lorsqu'il écrit « N'allons pas croire qu'il suffit pour notre salut, après avoir dépouillé veuves et orphelins, d'offrir à l'autel un calice d'or incrusté de pierreries. Si tu veux honorer le sacrifice, offre l'âme pour laquelle il s'est sacrifié, fais-la d'or, elle. si elle reste pire que le plomb ou l'argile, l'ustensile en or, à quoi bon ? Veux-tu honorer le corps du Christ ? Ne le méprise pas quand il est nu. Après l'avoir honoré ici avec des vêtements de soie, ne le méprise pas dehors alors qu'il souffre du froid et de la nudité. Celui qui a dit « Ceci est mon corps » et à sa parole a garanti le fait, c'est lui qui a dit « Vous m'avez vu avoir faim et vous ne m'avez pas nourri. Et ce que vous n'avez pas fait pour l'un de ces petits, pour moi non plus, vous ne l'avez pas fait. » Tout en décorant la maison de Dieu, ne méprise pas donc ton frère dans la détresse, car il est lui-même un temple plus précieux qu'elle.
Un texte qui a aussi beaucoup de résonance évangélique, là, pour le coup, et moins paulinienne, mais qui, donc avec tout ce que vous avez dit avant, aussi des échos dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, pour continuer maintenant avec la vie de Chrysostome, pour revenir aux différentes péripéties qui ont marqué sa vie, donc les premiers temps comme prédicateur à Antioche se sont très bien passés, avec un grand succès, donc c'est avec ces thématiques aussi qu'il abordait, donc il a pu faire prospérer la communauté chrétienne à Antioche. Et donc, comme dans toute vie, avec ses hauts et ses bas, il y a eu aussi des coups durs, dont un premier qui est arrivé en l'année 387. Alors, oui, qu'est-ce qui s'est passé ?
À la fin du mois de février 387, à Antioche, donc, il y a eu une émeute suite à l'annonce de l'augmentation des impôts. Et les statuts impériaux de la famille impériale ont été renversés. Donc, ce qui est un crime de lèse-majesté. Et l'empereur Théodose a pris la mouche et a menacé de massacrer toute la ville. Et de fait, c'est ce qu'il va faire quelques années plus tard dans une autre ville. Grand émoi, évidemment, à Antioche, et pas seulement chez les chrétiens. L'évêque Flavien est dépêché à Constantinople pour tenter d'obtenir la clémence de l'empereur. Et Jean Chrysostome, de son côté, reste à Antioche pour ranimer le moral des troupes. Et donc, on a une série qui s'appelle Les homélies au peuple d'Antioche ou Les homélies sur les statues, qui est un modèle du genre. Il ranime le moral de la population. Alors, il fait appel aux moines qu'il connaissait dans la montagne et qui viennent braver les bourreaux. Il y a eu quelques exécutions de magistrats au début, voilà, quelques personnes qui effectivement
oui, pour l'exemple.
ont été condamnées. Mais le pire a été évité et Jean Chrysostome a certainement joué un rôle dans la pacification de la ville d'Antioche à ce moment-là.
Donc là, il a eu même un rôle politique qui l'a encore un peu plus propulsé sur le devant de la scène et qui l'a fait connaître aussi plus largement. Et donc c'est peut-être aussi un peu grâce à ça que donc, les échos de son ministère sont parvenus jusqu'à la capitale du monde oriental à ce moment-là, à Constantinople.
Alors c'est assez curieux parce qu'à l'automne 397, on lui donne rendez-vous de la part d'Astérios, qui est comte d'Orient et gouverneur de la ville. Et voilà, il ne connaît pas l'objet de ce rendez-vous et il se rend à la porte de la ville sans savoir qu'en réalité, il ne reverrait plus Antioche, puisque le comte le fait emmener directement à Constantinople. Pourquoi ? Eh bien, pour devenir le prochain archevêque, on ne dit pas encore patriarche à ce moment-là, archevêque de la capitale impériale.
Donc Jean Chrysostome, dans une vie pleine de rebondissements, a été enlevé de force pour devenir le plus grand représentant donc, de l'Église dans le monde oriental. Et donc à Constantinople, Jean va arriver au beau milieu de la cour impériale.